7 au 21 décembre, le GRIM programme la 5e édition du festival Nuit d'hiver, placé cette année sous le signe du blues, ou plutôt des blues, au pluriel. On aurait tort de circonscrire une musique à un style, à un genre, voire une variété. Ces blues-là viennent du monde entier, traversent toutes les frontières dans l'instant, pour en 5 notes, nous réaccorder sur le diapason du monde une petite planète bleue. Bleu, les 5e nuits d'hiver du GRIM sont bleues, concerts, conférences, films, à Montevideo ou bien hors les murs, à l'Alcazar, à Nice, Rousset ou Martigues, c'est le Grand Bleu avec une vingtaine d'artistes invités et quelques-uns sont d'ailleurs avec nous sur ce plateau. Raphaël Imbert, Paul Elwood, Faye Victor, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et ils sont accompagnés par Jean-Marc Montera, instigateur de ces nuits d'hiver. Jean-Marc, une 5e édition qu'on prend en cours de route, puisqu'on a déjà pu écouter ABB Fekade et Etenesh Ouassié, Faye Victor et Anders Nilsson ces jours-ci. En tout cas, une programmation très ouverte sur le monde, peut-être une manière de rappeler que le blues n'est pas forcément natif des États-Unis, de Chicago ou du Mississippi.
Oui, bonjour. Oui, ça maintenant, beaucoup le savent et c'est pas la peine d'insister trop sur les origines africaines du blues. C'est une évidence. Là, c'est un petit panorama non exhaustif qu'on souhaitait faire partager déjà avec les médiathèques et les lieux de la région dont vous parliez tout à l'heure. Parce que c'était important d'essayer de non seulement d'établir de nouveaux partenaires et de rayonner sur la région et le département avec ce type de programmation, mais aussi pour permettre aux artistes invités qui, bon, comme vous pouvez le constater sur le programme, ne sont pas des gens qui viennent jouer très souvent en France et a fortiori à Marseille, de leur permettre de faire plusieurs concerts et de prendre contact avec un territoire, et de rencontrer des gens et de se rencontrer entre eux aussi. Je suis très heureux que Paul Elwood et Faye Victor puissent rencontrer Raphaël et passer quelques jours ensemble.
Des formes très variées de blues donc, qui vont être données à entendre. En générique de cette émission, on entendait Mike Cooper, une forme très, très hawaïenne, une forme des îles, et on va en entendre sûrement encore d'autres versions tout aussi étonnantes les unes que les autres. Mais en même temps, le blues, au fond, c'est 90% de la musique qu'on écoute quotidiennement. C'est une musique racine qui a essaimé dans toutes sortes de styles et de genres musicaux, et au point qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la musique qu'on écoute, elle vient de là, elle vient du blues.
Oui, on va pas piquer les paroles à Johnny Hallyday.
Mais c'était pour le clin d'œil. Hein.
Ben, oui, effectivement. En tout cas, toutes les musiques qui, hormis les musiques traditionnelles, idiomatiques, qui sont citées là dans cette programmation, comme la musique arménienne, l'Espagne, etc., etc., effectivement, toutes les ramifications rock, country, folk, etc., etc., prennent leurs racines dans le blues quelque part, qu'il soit noir ou blanc, en fait. Hein, à un moment, la dichotomie ne se fait plus sentir de manière aussi tranchée qu'aux origines.
En tout cas, quelque chose qui est tout à fait dans la ligne du travail que tu mènes tout au long de l'année au GRIM, c'est le rapport à l'improvisation. GRIM, on le rappelle, c'est un groupe de recherche pour l'improvisation musicale, et particulièrement le blues, c'est une terre fertile pour l'improvisation.
C'est Derek Bailey a montré le chemin. Je pense que c'est effectivement, c'est presque plus un genre musical, le blues. C'est un peu comme l'improvisation, c'est devenu une source. Et on s'en nourrit plus qu'on l'interprète.
Qu'est-ce qui rend cette musique si facile, si propice à l'improvisation? C'est le fait qu'il y a des grilles qui sont au fond assez simples, une possibilité sur 3 ou 4 accords de partir sur des évolutions musicales complexes, de se laisser aller. Qu'est-ce qui rend cette musique si apte et si propice à l'improvisation, à ton avis?
Je ne saurais pas dire, parce que c'est une facilité apparente. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 3 accords que c'est une musique facile. Elle n'est pas si simple que ça. L'improvisation, en fait, est pas chez les bluesmen, n'est pas vraiment un choix, c'est un mode d'expression. D'ailleurs, c'est assez fréquent d'entendre des enregistrements de blues où le tempo est plus que fluctuant, la métrique plus qu'aléatoire et la justesse approximative. Et c'est pas pour autant que ces morceaux ne sont pas intéressants. L'improvisation qu'on pratique, nous, au Grimm, dans le cadre des musiques expérimentales, s'inspire de ces formes-là, mais ne s'inscrit pas dans une métrique et une forme idiomatique aussi précise.
En tout cas, le blues, s'il prend parfois des formes instrumentales, c'est d'abord et avant tout un message, un cri, une voix. Faye Victor, bonjour, hello.
Hello.
Vous êtes chanteuse, vocaliste même. You are a vocalist.
Yes.
So maybe we will start before talking a little about your work by listening something of yours. So what could you what have you brought with us to make you listen something?
I brought my most recent recording, which is entitled "Cartwheels Through the Cosmos," and it's an all original project. And I wanted you to hear a song called Exchange Rate. And the reason I suggested that one is because it has to do with cowrie shells. You know, cowrie shells are it used to be the money that they used to trade slaves with.
Alors, Faye Victor nous a apporté un morceau qui est extrait de son dernier album, de sa dernière production. Et le titre, c'est les coquillages Cora. Et parce que c'est avec ces coquillages qu'on payait les échanges économiques avec les esclaves. On en écoute un extrait.
Folks, all miles with cowrie shells in there.
proudly with their urban flair. I see cowries on tribal masks. I think it's one hell of a task to get them on there.
On écoutait un extrait du dernier album de Faye Victor qui est avec nous sur ce plateau. Fait en marge du concert que tu donnais hier, une conférence à Martigues pour faire découvrir la culture et la musique Goula. Alors sans refaire cette conférence, peut-être quelques mots sur l'histoire des Goula. Maybe a few words about the history of the Goula people. Shortly.
Well, they are very special because they are the most Africanized of African Americans in the U.S. They have retained the most African traditions.
Parmi tous les peuples afro-américains, ce sont eux qui ont gardé le plus grand héritage de leurs racines africaines.
Yeah, and during the conference, I talk about how that happened, how it is that today they have retained so much in comparison to others. So that's what the conference is talking about.
Et au cours de cette conférence, elle a expliqué pourquoi ce peuple avait précisément un héritage culturel qui était plus important que d'autres. Maybe why these Goula people have retained more of this African heritage?
Because,
et justement, pourquoi est-ce que ces Goula ont retenu un héritage culturel plus important?
Because they were slaves, but they were slaves in relative isolation. And they were the ratio of blacks of themselves to white slaveholders was large. So
ils étaient esclaves, mais ils étaient esclaves dans une situation relativement isolée, localisée aux États-Unis.
Yeah. So they had a lot of space to keep and hold on to things that came from Africa, where in other parts of the country, in the other parts of the South, a lot of African cultures were stamped out because you weren't allowed to speak your languages, or because slaveholders were afraid that if slaves could congregate, then they could revolt.
Alors que dans d'autres parties du sud des États-Unis, les populations d'esclaves étaient beaucoup plus dispersées, alors que là, ils ont eu l'opportunité d'être plus rassemblés, donc de mieux garder, notamment leur langage. The language is the central part of this culture.
Yeah, and the music, and the music is, and that's also, and the language comes again from the retention of African traditions and culture, and the way they make music as well. So.
Le langage et la musique sont les deux éléments essentiels de cet héritage culturel. As I said in beginning, the blues is first of all the voice. It's first of all the shouting something.
Yeah.
Do you agree? Le blues, c'est d'abord la voix, c'est d'abord crier. Est-ce que Faye Victor est d'accord avec ça?
When you say shout, what do you mean?
Something from inside that goes sometimes with a certain violence, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui parfois est un peu violent, enfin. Qui répond à une situation de violence, which answers to a situation of violence.
I would say it maybe transcends violence. I would say it's a way of actually, I'm going to quote somebody. I heard somebody say something recently that was amazing, and I think basically it was a way for a lot of, let's say, African Americans, that's where the music started, of understanding their own humanity, because the world was telling them they were not inhuman, and it was a way that they can express their humanity.
Alors en fait, le blues n'est pas l'expression d'un cri ou d'une violence, c'est plutôt une façon de transcender la violence. Et Faye faisait une citation de quelqu'un qui disait que la caractéristique du blues, elle était qu'il émanait de gens qui avaient été désignés comme n'étant pas humains, justement.
So, and with that means that it's not just expressing bad things, it's expressing everything and expressing it in a situation where other people understand and can relate to what you are saying.
Donc c'est avant tout chanter, s'exprimer dans une situation où il faut que chacun prenne conscience de... Can you repeat the end of the sentence?
That you can you express everything and you express it to people that understand and can relate to what you are saying.
Et donc c'est s'exprimer dans la totalité avec les gens. Jean-Marc, c'est ça, si tu veux m'aider pour la traduction, tu es you're welcome.
Ça sort très très bien.
Bravo.
Faye, je crois que maintenant tu écris toi-même les textes de tes chansons, de tes morceaux. Now you write yourself the
yes.
text of the songs.
Yes.
Can you tell us about those texts? Peut-être nous raconter un petit peu ce que disent les textes des morceaux et des chansons de Faye Victor.
Well, they vary. On the same record that you just heard, I also there's some text about I call it the end of the world song with hope. It's a song about it's called It's Coming and it's about.
Alors il y a une chanson qui s'appelle C'est la fin du monde.
And it's talking about and I have to say a number of songs on this record. I think came out of the Bush administration or my feelings about the Bush administration.
Beaucoup des chansons de cet album ont été suscitées, provoquées, on dirait, par l'administration Bush.
Yeah, and this one is pretty dark. It's really about the world's going to blow up. And
et celle-là est plutôt sombre et elle dit que le monde va finir par exploser, par péter.
Yeah, but with a happy ending because I talk about what will happen when it blows, what I will be doing when it blows up. So that's why the title is called Cartwheels Through the Cosmos. That's what I will do.
Mais au fond, c'est un happy end, puisque une fois que le monde aura explosé, ben, ma foi, c'est plutôt pas mal, et on pourra peut-être repartir d'un bon pied.
And also, just to add, also, I think a lot of people get afraid about the end of the world, and I guess my feeling is, even if that happens, something will come after.
Yeah. Et beaucoup de gens ont très très peur que ce soit un jour la fin du monde. Moi, je n'ai pas peur de ça, et je sais que ça sera le commencement d'autre chose.
And then there's some more lyrics about Bush, really, and it's called Spin, talking about especially the way they talked about the Iraq war and got people to believe certain things that were.
Et il y a un autre morceau à propos de la gestion des affaires américaines par Bush qui s'appelle Spin. Spin, c'est rotation, je crois.
Yeah.
Peut-être effectivement qu'il faut faire tourner, je crois que c'est prévu pour dans pas longtemps. On va peut-être, à propos du blues, parler, on avait commencé à l'évoquer avec Jean-Marc, des conventions. Le blues, c'est quelque chose qui peut parfois mener à des choses très extraordinaires, mais c'est aussi quelque chose qui est parfois très simplifié. La plupart des blues qu'on entend sont quand même assez simples dans leur traduction. Blues is a musical style that can lead to things very strange or complicated or elaborated, mm-hmm. but also most of the blues that we listen in the radio, for example, are very simplified versions of blues. Mm-hmm. What do you think about that?
I don't know if I have any real... are you asking if I think that it's a big difference or... I'm not really sure what you're asking, to be honest.
Well, it's how the blues is in the same time something very elaborated, and in the same time all the media they diffuse and they play blues that are very often very simplified versions of blues.
Yeah.
You know, just two chords.
Mm-hmm, I don't know. I think, man, that's complicated. I think blues is much bigger, and like for example, the music we're doing during the festival is some of it is really true blues, and then some of it is, an extract from many
Alors,
times
removed. Le blues c'est compliqué parce qu'il y a parfois des choses qui sont vraiment du vrai blues, et puis il y a des choses qui sont extraites du blues, qui partent du blues, mais dans d'autres directions.
And I think no matter how simple or complicated the musical structures are, I think it's about the feeling.
Peu importe si les structures musicales sont compliquées ou simples, c'est d'abord et avant tout une question de feeling.
Yeah, I think if people can tune into it, that's what's important. I think that for me is fundamental with blues. That for me is really important with blues.
Que les gens puissent s'accorder avec cette musique, ça c'est le plus important pour Faye Victor. Jean-Marc, peut-être sur cette question, sur la, le fait que bah, y a des formes extrêmement complexes que tu donnes à entendre, d'ailleurs dans le cadre de ce festival, et qu'en même temps, on a un peu une image au travers de la diffusion de cette musique, d'un blues très simple, voire un peu simplé même parfois.
Oui.
On parlait de Johnny tout à l'heure.
Hein, oui. Ah, ben justement. Ah. Enfin, il faut faire attention. Moi, Johnny, c'est pas aussi simpliste que ça. Je crois que c'est quelqu'un qui a été important dans l'importation du blues et en France. Hein, on est quand même de sa longue carrière, il a quand même joué avec Jimi Hendrix, il a quand même joué avec Jimmy Page. C'est quelqu'un qui a une vraie culture blues. Moi, là-dedans, je le crois totalement sincère. Et en plus, il se débrouille pas mal. Hein, il faut reconnaître, il a chanté quelques trucs, bon, des musiques d'ascenseur, etc., etc. Mais là-dedans, justement, c'est sa sincérité, c'est son honnêteté et son investissement dans cette forme qui font que, justement, il est crédible. Hein, c'est un peu comme Eddie Mitchell, quoi.
Sincérité, Jean-Marc vient de mettre le doigt sur le mot effectivement qui décrit le mieux le blues et qui le caractérise, qu'il soit simple ou complexe, avant tout il doit être sincère. On va maintenant écouter un second extrait musical, en l'occurrence apporté par Raphaël Imbert. On en parle juste après.
Amen.
Raphaël Imbert, bonjour, tu nous as apporté cette petite perle rare, alors je te laisse le soin de la désannoncer toi-même.
Il s'agissait de Mamie Smith, Crazy Blues, et il s'agit en fait historiquement et physiquement du premier blues enregistré en 1921.
Voilà. 1921, où ouais. ça
Autant que je me souvienne, à New York. Je dis bien autant que je me souvienne, là je le fais de tête. Faudrait vérifier.
On reste dans ce chemin de traverse avec toi, ce chemin de traverse qu'on appelle le jazz, une voix céleste qu'on vient d'écouter, et puis une voix aussi, un chemin vers les étoiles avec cette musique. Sur ce chemin, tu y places un certain nombre de références, il y en a trois qui constituent une sorte de trinité, de sainte trinité, pourrait-on dire. Je crois qu'il s'agit de Duke Ellington, d'Albert Taylor et de John Coltrane. Et puis bien d'autres encore. Je suis allé faire un tour sur ton MySpace et à la page référence, il y a quasiment un dictionnaire de la musique. Donc, est-ce que ça signifie que ton écoute est très large, en fait, et que tes inspirations sont très, très larges?
Ça signifie quelque chose qui touche à ce qu'on vient d'écouter et qui touche à ce qu'on vient de dire, en fait, par rapport au blues, à la complexité, à la simplicité en même temps. Puisque là, on écoute un blues et qui, en fait, quand je le fais écouter à mes étudiants, ils me disent « mais c'est pas un blues ». Parce qu'en fait, qu'on a écouté, il y a des couplets, il y a des refrains, il y a énormément d'harmonies différentes qui se réfèrent à toute la liturgie des hymnes américains, à tout l'art de... On a Paul à côté de moi, là, avec le banjo, à tout l'art de la chanson populaire américaine, qu'elle soit irlandaise, écossaise, celte, et même asiatique, puisqu'il y a quand même aussi des influences asiatiques là-dedans. C'est quand même assez... on le découvre maintenant, c'est paradoxalement. Et qu'on découvre en 1921, alors qu'on devrait... a priori, dans notre imaginaire, être en face de blues très rudimentaires, comme ceux qu'on écoute à la radio, qu'on nous présente comme des blues maintenant. Et en fait, on est, dès 1921, face à une diversité et une complexité et une richesse de la composition à travers cette musique qui est absolument incroyable. Et d'une certaine manière, par rapport à mon dictionnaire de référence, moi j'ai toujours été frappé, je pense que tu connais un petit peu mais par rapport à cette trinité, mes recherches vis-à-vis de la spiritualité dans le jazz, vis-à-vis des sources d'inspiration des jazzmen et des musiciens afro-américains, moi j'ai toujours été frappé que toujours, il y a toujours ce lien de la transmission, et il y a toujours un lien de la transmission avec les générations, avec les ancêtres, qui quand même d'ailleurs rappellent quelque chose d'assez africain, il me semble, là-dedans. Moi qui ne suis absolument pas américain, absolument pas africain, rien de tout ça, c'était pour moi voir si je supportais de faire la même chose, en fait. En y ajoutant, d'ailleurs, beaucoup de choses qui aussi me correspondent en tant que Français, que ce soit Brassens, Brel, Ferré, par exemple, ou Ravel, Debussy, ces choses-là. Donc c'est un petit peu l'expérience que je fais à travers ce nouveau mode d'expression qu'est MySpace, là tu en parlais. Bon, bah, c'est un nouveau truc, beaucoup de gens y mettent soit pas du tout d'influence, soit beaucoup. Moi j'ai assumé ce côté qui me rappelle justement ce que j'ai vu et des interviews que j'ai pu avoir de jazzman, parmi les plus anciens, notamment à New York, comme Duke Jordan ou Henry Grimes, qui m'ont toujours montré ce côté de la transmission, ce lien qui existait de génération en génération.
Voilà. On va reparler tout à l'heure de la transmission à propos de ton rôle de professeur, au conservatoire notamment, mais juste à propos, des influences sur le blues, on va, au cours de ce festival Nuit d'hiver, rencontrer un grand nombre d'influences venant de tous les continents, mais après tout, il y a aussi, en ce moment, une forte influence européenne sur le blues. Après être venu, peut-être au travers de la Seconde Guerre mondiale et avec le jazz. Ici en Europe, aujourd'hui, des formes nouvelles, renouvelées de blues retournent vers les États-Unis. Est-ce qu'on peut parler d'influence européenne sur le blues? Peut-être on posera cette question ensuite à Paul et à Faye.
C'est une question très intéressante et je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc que finalement Johnny là-dessus a eu un rôle assez important. Et je le dis sans plaisanter, parce que d'ailleurs son dernier album est parfaitement là-dedans, et qu'il est assez... C'est un très très bel album en plus, en l'occurrence, et d'une certaine manière, pour plein d'autres raisons que musicales, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais c'est vrai. Et que de toute façon, il y a toujours eu ce dialogue. Ceci étant, il faut aussi se méfier de rapprochements un peu hâtifs. Le blues, selon moi, dans sa structure et dans sa création, est quand même justement la preuve de la survivance et de l'existence et de la résistance d'une culture africaine au sein d'un territoire qui interdisait et qui calfeutrait cette résurgence-là. Alors je suis très intéressé par ce que disait Fay par rapport au goulas, hein, mais il y a quand même ce fondement-là qui est très important, mais effectivement qui, dès le départ, subit des influences déjà aussi assez européennes. Il y a un très très beau livre de Gérard Herzvatz qui s'appelle Americana, que je conseille à tout le monde de lire chez Fayard, et qui montre bien toutes ces influences de façon très précise.
Voilà. Jean-Marc ?
Oui, juste pour rajouter et répondre à ta question sur l'influence européenne, je ne sais pas si on peut parler d'influence musicale à proprement parler, mais en tout cas une influence pour faire en sorte que cette forme musicale réémerge. Il ne faut pas oublier que c'est dans les années 60-70, c'est les Anglais, avec les tournées d'Eric Clapton aux USA, qui ont redonné au blues originel la position qu'il aurait toujours dû avoir.
Bien sûr. Et en y ajoutant, une petite fierté française, le travail des hauts clubs français, parfois au fin fond du Lot ou du Sud-Ouest, qui ont par exemple fait émerger des musiciens comme Memphis Slim, beaucoup de grands bluesmen, qui eux, justement, parce qu'il y a l'influence anglaise, des Anglais qui récupèrent le blues pour en faire d'ailleurs une musique qui va se renouveler, puis il y a ce côté patrimonial que les Français ont pris en compte, et qui ont fait que, à mon avis, beaucoup de musiciens américains de blues ont finalement retrouvé une seconde carrière grâce à ça.
Fay and Paul, I was asking to Raphaël if now there was a strong European influence on the blues. What do you think? Do you agree?
I think blues wouldn't exist if the two didn't come together. Blues wouldn't exist. I think it's that simple. Yeah.
Si les deux n'allaient pas ensemble, le blues n'existerait pas.
Yeah. The harmony is pure European.
Yeah. Yeah.
L'harmonie est purement européenne.
Yeah, it's funny because in the Gula lecture, I talk about one of the things we talk about is the African harmonies that when they sing, that are now more or less gone. But
maintenant les harmonies musicales qui avaient été développées par le peuple Gula à l'origine sont plus ou moins disparues.
And that's very interesting because they deal with harmony in a different way. People come in and people choose the pitches they want to, and so the intonation is very different.
Et maintenant, les choses ont changé. Chacun peut arriver et choisir la tonalité sur laquelle il va le pitch sur lequel il va s'accorder.
And I think some of that has filtered into how, you know, the bent notes when you play or sing blues. And but if,
et on
if,
peut maintenant s'articuler sur des notes courbées, bent, c'est ça.
Yeah.
Des notes pliées.
But as Paul, if Paul said it, the harmonies are European in blues, and that's, you know. And that's what makes America, in that sense, special, because it brought, you know, the forced labor came together with the music from Europe, and that's where the blues. That, I mean, that makes, that's the reason the blues are here. So all the pain and tragedy, what it brought out, made this amazing musical legacy.
Et toute la peine et la difficulté fait que c'est un immense héritage musical. Mais c'est avant tout une musique d'harmonie européenne. Paul?
Well, the scales also are the African scales, the American, the European, even all kind of emanate from the pentatonic scale.
Alors les échelles de son sont essentiellement des échelles à 5 tons pentatoniques.
It's interesting because in most or all of the folk musics of the world, there are scalar ideas in common.
Et la plupart des musiques folk, des musiques populaires dans le monde, sont basées sur des gammes pentatoniques.
Le chinois, l'hindi, actually l'hindi c'est compliqué, mais Afrique, Amérique, la folk music d'Amérique, c'est le pentatonic scale.
Et c'est peut-être un point sur lequel toutes ces musiques se rejoignent. Revenons avec toi, Raphaël, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose.
Disons que pour ajouter à ça, il y a quand même, selon moi, mais c'est quelque chose qui est en train de... Un point de vue théorique et pédagogique, c'est quelque chose sur lequel pas mal de musiciens sont en train de réfléchir. Mais finalement, n'oublions pas, malgré tout, il y a quand même une révolution du blues. Il y a un avant et un après, musicalement et théoriquement, dans la théorie de la musique. qui ne peut se comparer qu'à ce qui s'est passé au Xe siècle en Europe avec les moines et ceux qui ont inventé la tonalité. La tonalité, celle qui détermine la musique occidentale dans son ensemble. Et finalement, il faut attendre le blues pour arriver à réussir un mélange qui était censé être impossible et considéré comme impossible par tous les musicologues et tous les théoriciens de la musique, d'un côté modal pour les musiques du monde, mais aussi les grands théoriciens de la musique indienne ou de la musique orientale, et tonal pour les grands musiciens, les grands musicologues de la musique occidentale. C'est un peu technique, mais c'est très important. Les harmonies, la forme des harmonies est européenne, mais dans cette harmonie européenne, on y ajoute une septième de dominante. C'est très technique.
On sent que tu es professeur au conservatoire.
Ex-professeur, justement, je voulais, c'est pour ça. Mais justement, on ne peut pas tant que ça exprimer ce genre de choses, parce que ça On aime aller finalement, à l'heure actuelle, j'en suis désolé, mais on aime aller à des choses très, très simples et très superficielles pour apprendre la musique. Et il y a quand même un rôle de la profondeur dans le blues et dans le jazz et dans toutes ces musiques-là. Il y a quelque chose de deep, et même théoriquement. Il y a quand même besoin, c'est pour ça que moi je fais écouter Mamie Smith à mes élèves et que je vais essayer d'aller de plus en plus loin. Il y a quand même un lien et il y a quand même une révolution dont la seule comparaison possible pour moi est celle de Paul Diacre au Xe siècle quand il invente la tonalité. Et quand tu disais, oui, toute la musique qu'on aime, c'est le blues, et lié au blues, c'est surtout parce que, en fait, ils ont créé quelque chose. Ils ont fait quelque chose de nouveau qui est lié à un parfait mélange entre modalité et tonalité et entre mineur et majeur. C'est quand même les bases de la musique occidentale pendant 10 siècles qui ont été totalement transformées par ça. Voilà.
Tu l'évoquais tout à l'heure, l'importance de la spiritualité dans la musique en général, mais peut-être plus particulièrement dans celle-là, dans le blues, c'est quelque chose qui te concerne au premier chef.
Ah oui, ça,
tu peux nous en dire un mot.
Oui, d'autant plus que le blues est considéré à juste titre comme une musique profane. C'est quand même l'archétype, on fait souvent la dichotomie
par
opposition au gospel. Mais justement, c'est là où il faut distinguer, même pour ces sujets théoriques, il faut distinguer le blues en tant que style, où là, on est tous d'accord pour dire qu'a priori, c'est 12 mesures, on peut l'analyser, tout ça, et le blues en tant qu'état d'esprit, ce qui est assez différent. Et moi, je fais tout un travail, notamment auprès de mes étudiants, même, je continue d'en avoir, hein, même si je suis ex-professeur au conservatoire, j'ai d'autres occasions de travailler là-dessus avec des étudiants. Le blues en tant qu'état d'esprit individuel, et l'improvisation, mais les deux sont liés, et l'improvisation et le jazz en tant qu'état d'esprit collectif. Quand même pas oublier, et à mon avis, c'est ce qui fait que le blues est devenu une musique qui est typiquement africaine, mais quand même révolutionnaire, c'est que c'est justement les propriétaires, les esclavagistes, n'écoutaient pas le blues. C'était une musique qui était jouée dans leur cuisine. C'était une musique qui était jouée au sein de la communauté, dans un nombre très restreint. Et d'ailleurs, je pense, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres exemples dans l'histoire de musique qui était aussi individuelle, qui était avant tout une musique qui était healing. C'est quelque chose de qui répare sans soi. C'est quelque chose qui est un miroir. En tant que tel, c'est déjà un élément très spirituel, même vis-à-vis de la vie spirituelle telle qu'elle des Afro-Américains et des Américains en général, telle qu'on peut l'observer encore maintenant, avec une frontière qui est quand même très faible entre le monde profane et le monde sacré. Et là, on parle d'un état d'esprit, on parle quand même de quelque chose justement de spirituel, même si c'est une musique profane. Et même si pendant très longtemps, les musiciens de gospel et de négro-spirituel interdisaient catégoriquement toute référence au blues. Mais alors, il y a le côté exotérique de la chose, il y a le côté religieux, ce qui n'a rien à voir avec le côté plus profond, plus ésotérique d'une certaine manière, et plus spirituel. Où là, effectivement, il y a une spiritualité de cette musique-là, de cet état d'esprit. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur cette...
Une spiritualité, en tout cas, qui n'est, j'imagine, du partage et de la multiplicité des partages. En effet, tu travailles avec de nombreuses formations, de nombreux artistes, l'occasion d'échanger avec eux sur tous les plans, au plan musical et peut-être aussi sûrement au plan spirituel. Peut-être parmi ces différentes formations dans lesquelles tu composes et tu joues, tu pourrais nous dire quelques mots de Newtopia, dans laquelle tu collabores avec Yaron Herman et Zimen Kawana.
Oui, là, on est justement dans le bon exemple de ce que cet état d'esprit permet de faire. De jouer avec trois jeunes musiciens que j'ai connus au conservatoire justement marseillais et qui ont depuis gagné tous les concours qui passent. Voilà, c'est la jeune scène marseillaise là, qui est en train d'émerger en jazz. Là, dans le studio, on voit pas mal d'images, d'affiches et finalement, quand on regarde bien, ils sont présents sur à peu près un quart des affiches. En ce qui concerne le jazz, ils sont là, ils sont présents, il y a une vraie scène marseillaise et de faire rencontrer à ces jeunes musiciens quelqu'un comme Yaron Herman, donc ce jeune pianiste israélien, et Zim Knawana, qui est quand même une des grandes figures de l'improvisation et du jazz sud-africain. D'ailleurs, avec un parallèle entre ce qui s'est passé en Afrique du Sud vis-à-vis de la ségrégation, vis-à-vis de l'apartheid, et ce qu'on peut trouver justement aux États-Unis à une époque pas si lointaine, et avec une actualité, Faye le disait par rapport à Bush, qu'est-ce qui passe maintenant, une actualité qui est quand même encore très brûlante. Zim est le témoin de tout ça, il en a fait une musique très personnelle, très avant-gardiste au regard de la doxa du jazz sud-africain qui est quand même très entertainment, très divertissante d'une certaine manière. Et cette rencontre, elle est déterminante. Elle ne peut se faire, à mon avis d'ailleurs, musicalement, qu'à partir des bases spirituelles. Alors quand je dis ça, je ne sors pas l'encens dans le studio en disant... c'est pas une question de croyance, c'est une question d'état d'esprit, justement. Et il faut savoir que Zim a fondé son propre contexte spirituel qui appelle Ingoma, et c'est comme ça qu'il explique non seulement sa musique, mais toute sa façon de jouer et d'être en relation avec les gens. C'est assez spécial, mais c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, c'est ce que j'ai retrouvé chez beaucoup de jazzmen américains.
À propos d'Amérique, justement, il est grand temps de ne pas réduire ou résumer les Américains à l'administration de George W. Bush. Il y a, je ne sais pas combien, 300, 500 millions d'Américains qui sont tous formidables, et puis il y en a un qui est un peu raté. Voilà. Bon, on ne va pas systématiquement parler de celui-là. On va plutôt parler d'autres racines de la culture américaine avec un morceau que nous a apporté Paul Elwood et qu'on écoute tout d'abord. Voilà, Paul Elwood, tu nous as apporté cette chose assez étonnante où le banjo a tout à fait sa place, mais au milieu d'électronique et dans une forme très, très particulière. Peut-être tu peux nous expliquer ce dont il s'agissait.
Well, in the 1930s, country music actually became popular through this medium right here, the radio.
Dans les années 30, la musique country est devenue très populaire, notamment grâce à ce média qu'est la radio.
But the same thing was true with blues, I think. And when country and blues collided in the 1940s, the late 1940s, we ended up with an amalgam called bluegrass. I'm oversimplifying.
Et dans les années, pour simplifier, dans les années 40, la musique country et la musique blues se sont un peu amalgamées pour donner quelque chose qui s'appelle le bluegrass.
Bill Monroe, the father of bluegrass, actually studied with an old African-American blues musician named Arnold Schultz. He was never recorded, but he mentored a number of really great musicians.
Alors l'inventeur du bluegrass qui est the inventor of bluegrass.
Bill Monroe.
Bill Monroe a joué avec un autre musicien afro-américain qui s'appelait
Arnold Schultz.
Arnold Schultz, voilà.
But the piece that we just heard is kind of it's my history of country music in a way, because you hear a little bit of old time music in the beginning, a tune called Sally Ann, and then you hear kind of radio-like noise, and then you hear me singing an old Bill Monroe song called In the Pines.
Alors, dans le morceau qu'il vient de nous faire écouter, Paul Elwood signe à la fois toute l'histoire de la musique américaine, puisqu'on y entend à la fois un grand classique qui est Sally Ann.
Well, the first was Sally Ann, and then I'm singing over the electronics in the pines.
Et puis en même temps des sons électroniques qui font penser aussi à la radio et à une musique plus noise. On parlait tout à l'heure avec Raphaël de la transmission du conservatoire, de comment transmettre ces valeurs musicales, s'il s'agissait d'abord d'un état d'esprit ou bien d'une technique. Alors peut-être de ton point de vue, transmettre la musique, transmettre le blues ou le bluegrass, est-ce que c'est avant tout une affaire d'état d'esprit ou une affaire de technique? The transmission of the music of bluegrass or blues, is it an affair of feeling, or is it something technical, something musicologic?
I'm more of a technological guy.
Alors lui, il est plus un gars pour la technologie.
I believe you can only express the feeling through the technique, in a sense. So I feel like
on peut exprimer le feeling au travers de la technique.
For instance, the style of bluegrass singing initially, I believe, really emanated not only from the blues but also from work songs that that slaves and later then poor workers sang in the fields.
Peut-être si tu peux répéter, parce que j'étais en train de penser à autre chose à ce moment-là. J'en suis absolument. C'est très difficile d'animer un plateau et de traduire en même temps, et j'étais en train d'imaginer complètement autre chose. Well, je suis désolé. I'm sorry.
Les chansons se viennent de les chansons de les travailleurs dans les champs et sur la railroad. For instance, In the Pines is actually a song that it's very surreal. If you listen to the words, they're very strange words, but
alors finalement cette chanson Sous les pins, c'est une chanson qui est un peu irréelle ou surréelle, surréaliste.
But the style of singing could be interpreted as coming from train calls, field calls. May I play just a phrase from the song?
Alors il va jouer un morceau avec son banjo pour illustrer son propos.
The longest train I ever saw went down that Georgia line. The engine passed at 6 o'clock and the cab rolled by at 9. In the pines where the sun never shines and we shiver when the cold winds moan. Here are the winds.
Merci Paul Elwood. Musique bluegrass qui a une racine country et en même temps une racine de blues. Or justement, on a un peu tendance parfois à opposer le country et le blues, peut-être même à en faire des emblèmes raciaux l'un et l'autre. Le country pour les white Americans et puis le blues qui serait plutôt une musique des Afro-Americans. Et en fait, le bluegrass démontre que y a un métissage possible entre les deux.
Le message.
Métissage, melting.
Oh, oui.
mais aussi massage, hein, on peut. Ça fait well, partie du melting. C'est comme ça que ça commence.
Il y a quatre parties de la musique. C'est le gospel, c'est le blues, c'est le country et la musique de Scots, Irlande.
La musique de Scott Aaron.
Oui.
Non, d'Écosse.
Ah, Scott, d'accord, la musique d'Écosse, d'accord.
Oui,
et d'Irlande.
C'est mon prononciation, désolé. So, yes, it's a melting pot of styles, because America really, I mean, we used to call it a melting pot. There is a divisiveness now, unfortunately, between the cultures, largely probably due to the fear that conservative Americans have about...
La vérité des États-Unis, c'est d'être un melting pot, et c'est peut-être ça justement que craignent aujourd'hui les néoconservateurs américains.
Some of white America is worried that we're being taken over culturally, but the fact is that's what America has always been about, is the combination of the cultures. we just, I hope that in the near future we'll accept that because, you know, in 50 years we'll probably be speaking Spanish anyway.
Et il dit que de toute façon, aux États-Unis, dans quelques années, on parlera probablement espagnol. Enfin, en tout cas, c'est possible. Et que la réalité, la vérité de ce pays, c'est d'être un pays de métissage. On va peut-être maintenant laisser un peu place à l'improvisation, justement. Et je crois que Raphaël a apporté son saxophone. On a entendu tout à l'heure quelques notes de banjo de Paul. Si Faye a envie de participer à cette improvisation, elle y est bien sûr le bienvenu. Jean-Marc, je ne sais pas, je ne sais que te dire.
Je vais vous épargner le fait de chanter.
Moi aussi, je vous rassure, juste le temps avant de les écouter, de rappeler que toute la programmation du festival Nuit d'hiver est sur le site du Grimm, www.grimm-marseille.com, que vous pouvez les appeler au 04 91 04 69 59, que Bertrand était à la technique pour l'enregistrement de cette émission, et que demain, à Sophia Antipolis, à 19h, à la médiathèque communautaire de Valbonne, on pourra entendre Tetuzi Akiyama. Voilà. Maintenant, place à la musique. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque chose ?
Juste pour, mémoire, lundi 17 décembre, parce que les concerts commencent le 18 à Montevideo, mais lundi 17 à 20h au Cinéma des Variétés, il y a le film de Wim Wenders, The Soul of Man, produit par Martin Scorsese, sur un bluesman, Skip James, qu'il faut voir. Donc lundi à 20h aux Variétés.
Maintenant, Faye Victor, Paul Elwood, Raphaël Imbert, en live sur les 3-8. Oh.